Putain, c'est incroyable. Je viens de trouver deux mouches en train de baiser sur le bord de mon verre. J'allais attraper mon verre, j'avais soif. Et puis, qu'est-ce que je vois d'abord, je ne distingue qu'une mouche. Ce sont de jeunes mouches ou des petites. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'attrape le verre et elle ne bouge pas, elle ne s'envole pas. Puis, je vois qu'il y en avait une sur l'autre. Et donc, là, on peut faire ce qu'on veut. Elles sont trop occupées, quoi. Et alors, en plus, il y avait un fond de vin parce que j'ai bu du vin à table. Et il y a peut-être l'ivresse qui les a attirées, quoi. Et ça dure un petit moment, apparemment. Ah, ça y est. Elles se séparent. Je ne sais pas depuis combien de temps elles y étaient. Attends, il y en a une qui s'envole et l'autre qui reste sur le bord. Voilà, à mon avis, c'est... Je ne sais pas. J'ai pas fait gaffe. Si c'est le mâle ou la femelle qui s'est envolée. J'ai été distrait, là, j'ai pas regardé. Voilà. Bon. Hop, l'autre s'en va aussi. Mais c'est fini. J'avais assisté en direct à un coït de mouche. Bon, j'ai rincé le verre en cas quand même. Mais bon, ça avait l'air propre. Hein. Tiens, soit la femelle a décollé avant que le mâle éjacule parce qu'elle avait pas envie d'avoir de petit maintenant, peut-être. C'est-à-dire, oh, ça fait chier une grossesse. Bon. Soit... Il a envoyé la purée correcte, quoi. Mais, bon, je vous raconte ça, mais j'aurais mieux fait d'appeler RMC. La haie, la mouche. C'est à la même heure que toi, Daniel. Et ça commence un peu avant. Voilà. À plus, je vous raconterai la suite de si je peux faire de nouvelles observations scientifiques sur le... coït moscal, parce qu'il faudrait inventer des adjectifs savants dans ces cas-là. Le coït moscal, c'est le coït des mouches. Allez.
Hier matin, j'ai écouté Là-bas si j'y suis en balado-diffusion, en podcast quoi. Mais ce matin, j'ai pas eu le temps de le télécharger. Alors j'ai mis France Inter et entendu le porte-étendard de l'économie de marché, le parfait écho du marché boursier, tenir sa tribune libre, sans garde-fou journalistique ou professoral. J'ai nommé Jean-Marc Sylvestre. Mais ce matin, il a émis une idée intelligente. Il a dit, je le cite, « Il faut adopter un modèle de croissance moins productif. » Il l'a dit tel que, en bafouillant, ce qui est un comble pour un professionnel du micro comme lui, qui s'exprime tous les matins pendant 5 minutes. Bon, mais il s'est aussitôt rattrapé en disant une obscénité. Oui, une véritable obscénité. Je vous la livre. À moins d'adopter le principe du pollueur-payeur. Alors, en résumé, je peux payer le droit de faire fondre les glaciers, d'obliger des peuples entiers à fuir leur territoire immergé, de condamner des salariés à dépérir suite à un cancer dû à l'amiante ou autre, puisque j'ai payé. Le cancer du poumon, payé. Les gaz d'échappement, payé. Le cancer de la peau en démontant les micro-circuits du portable, payé. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est adopter un modèle de croissance moins productif. Et moi, je l'affirme sans bafouiller, parce que c'est clair dans mon esprit. Surtout, ce que j'aurais voulu, c'est que le journaliste, ce matin, questionne ses propos et réagisse. Car on ne peut pas laisser passer de telles obscénités à l'antenne sans réagir. Alors si personne l'a déjà fait, eh ben moi, je le fais. Voilà. Restons vigilants. Allez, ciao. C'était Patrice de Toulouse.
Restons vigilants et regardons bien surtout les mouches. Ça, c'est très très important ce qui se passe entre les mouches et Claude a bien observé la situation. J'espère qu'il sera aussi attentif à ce qui va se passer aujourd'hui dans Là-bas si j'y suis. C'est-à-dire que on va aller chez le barbier. Ah ah ah. Vite, oh là là, l'Afghanistan, des crimes, des talibans, la violence qui remonte, un bilan plutôt pas bon, quoi, hein, plutôt retour au chaos. C'est vrai, tout ça est vrai, mais on va essayer de voir comment le temps est passé, comment ces 5 années est passé, puisque nous retournons en Afghanistan 5 ans après, dans la boutique d'un barbier. cinq ans après. Comment les turbulences de l'histoire, comment tout ça se passe dans cinq ans plus tard. C'est notre sujet du jour dans Là-bas si j'y suis. Et ça vient après les messages que voici, quelques-uns à nouveau, choisis dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, là où vous les avez déposés.
Ce matin, j'écoute Bébéard et je me marre. Ce mec-là, il arrête pas de chialer sur son sort. Rien n'est de sa faute. C'est toujours la faute des autres. Les chômeurs, les glandeurs, les prolos, le gouvernement, la politique, les idéologies, les services sociaux, les médias. Et c'est même la faute à Colbert. Il n'y a que lui qui est bon avec ses idées de merde. Et ce mec-là, il veut nous dire de nous bouger le cul. À ce niveau-là de mauvaise foi, les arguments n'ont plus lieu d'être. Il ne reste plus que la prière. Puisse Dieu avoir pitié de Bébéard. Ou alors il reste la révolution. Mais bon, la révolution l'a déjà donné.
Groupe La Vache Noire, groupe libertaire de Saône-et-Loire. Bonjour, nous organisons un débat public sur l'enfermement avec Lucien Léger, qui a été libéré après 41 années d'emprisonnement. C'est lui qui animera le débat. Il nous fera part son expérience de la prison, de ses réflexions sur l'incarcération et puis de ses attentes. Donc ce débat a lieu le 3 novembre, vendredi à 20h, 21 rempart Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône. Voilà, ce débat est organisé donc par le groupe libertaire de Saône-et-Loire, La Vache Noire, qui est un adversaire résolu de tous les enfermements. Donc nous comptons sur vous pour venir nous voir et venir surtout écouter Lucien Léger. Merci, à plus.
C'est un message pour tous les AMG de la région de Ploubalais, Ploubalais entre Saint-Malo, Dinan, Dinard, pour repréciser que donc le rendez-vous a lieu le mardi 31 octobre à 20h au pénalty, comme d'habitude. Voilà.
Bonjour, c'est Jean-Claude de Villeneuve. Voilà, il y a un nouveau repère qui se crée à Pujol. C'est tout à côté de Villeneuve-sur-Lot. Un nouveau repère de Là-bas si j'y suis. Le premier rendez-vous est fixé à la crêperie Les Délices du Puy chez Fabien. C'est un lieu qui est très sympa. Et ça sera le vendredi 3 novembre à 20h. Alors on compte sur vous. Petit PS, c'est le premier repère sur le 47. Et à bientôt.
C'est l'offre de chasseur de tête pour Issama Ben Laden. Où vous pouvez appeler, où vous pouvez écrire, pour si jamais vous voyez Oussama Ben Laden, le terroriste.
Afghanistan, ravaged by 20 years of war, and now the focus of international attention.
Combien on peut gagner jusqu'à 25 millions de dollars.
Il y a des gens qui en ont ras-le-bol, qu'on aura le bol des étrangers, de voir qu'on voyage dans des grosses voitures, qu'on a beaucoup d'argent. Finalement, leur sort n'a pas changé. On est venu en 2001 en leur disant on va changer le pays, on va amener des millions, on va vous donner du boulot. Et finalement, ils dépendent toujours de la pluie et du beau temps, comme auparavant.
Nous allons voir des images immédiatement de ces frappes sur Kaboul.
C'est quoi ça? C'est du bravo. Attends. Là, on voit deux brouettes qui arrivent. Possédé par des enfants et c'est du pavot.
I have heard from farmers and people in Kandahar and Helmand that I can't feed my children democracy to eat democracy.
Ouais, des paysans de la région de Helmand m'ont dit c'est pas avec la démocratie que je vais nourrir mes enfants. C'est pas avec ça que je les fais manger.
I need food.
Il faut de la nourriture.
I don't need freedom of speech and freedom of religion.
La liberté d'expression et la liberté de culte, ça viendra après.
I need something to find food for my children for tonight.
Tout ce que j'ai devant, j'ai besoin, c'est à manger pour mes enfants ce soir.
Salut, c'est Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil. Un retour en Afghanistan, le barbier de Golbar.
Flight number 2, arriving from...
Fleur de printemps, Golbar, fleur de printemps. Effectivement, c'est beau, hein. Sauf que c'est l'automne, sauf que c'est avant la guerre ou pendant la guerre. C'est toujours un peu pendant la guerre en Afghanistan. Mais là, c'est peut-être pendant la guerre, d'avant la guerre. Mais là, tout est tranquille aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. Et si je fais un demi-tour comme ça, si je commence à gauche, qu'est-ce que je vois? Des graines, de lentilles, des pois rouges, du riz, trois espèces de riz. Ça, c'est le marchand de riz. Au-dessus de moi, là, qu'est-ce que je vois? Je vois un oiseau dans une cage. Derrière l'oiseau, le boucher qui a un mouton entier retourné avec tous ses attributs, la tête du mouton par terre, au-dessus du ruisseau, les tripes du mouton qu'on voit là-bas, la tête, les guêpes, et voilà, ça c'est le mouton, le piaf qui continue. Si je continue, je me tourne comme ça vers le soleil, c'est-à-dire vers Kaboul, là-bas au-dessus des montagnes c'est Kaboul. Eh bien, il y a tout le monde qui nous regarde parce qu'il n'y a rien à faire. Nous, on vient regarder les Afghans et les Afghans sont venus nous regarder. Et je continue. Là-bas en face, il y a un marchand de foulards, un marchand de livres, un petit libraire. Là-bas, il y a des pommes, il y a du raisin, il y a des noix, il y a des pommes de terre. À nouveau, un marchand de graines. Et voilà, là-bas, il y a un âne qui passe avec un bonhomme derrière. Et là, c'est le marchand de ferraille, le marchand de pièces pour la voiture, la voiture en pièces détachées, marchand de cordes, de machins en plastique, de gamelles, de cantines, et voilà. Et derrière moi, c'est le coiffeur. C'est le coiffeur. Je sais, inexplicablement, il y a des bûches, c'est pour se chauffer. Je ne sais pas qu'est-ce qui chauffe chez lui. Et là, c'est le barbier, et Give lui-même va se faire couper la barbe. Voilà.
Je vais me détalibaniser.
Il va se détalibaniser. Alors. Frivole, très frivole, futile, très futile d'aller se faire couper la barbe chez le barbier de Golbahar, alors que la nuit, les B-52 américains déchirent le ciel et bombardent l'Afghanistan. C'était en octobre 2001, nous étions dans cette région au nord de Kaboul, à Golbahar. On ne pouvait pas approcher Kaboul puisque la ligne du front nous en empêchait. C'est une des raisons, mais pas la seule bien évidemment, pour laquelle nous revenons 5 ans plus tard en Afghanistan. Et nous revenons chez ce barbier. Et on va essayer, au cours de cette heure, de retrouver le barbier. Qu'est-il devenu? Que sont devenus les gens qui nous avaient reçus à l'époque? Vont-ils nous reconnaître d'abord? Et nous allons-nous les reconnaître? Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Puisque c'est ça l'idée. On va voir, il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans. Hein, les bombardements américains, l'installation probablement durable des forces occidentales américaines d'un côté, celle de l'OTAN de l'autre, la soi-disant fuite des talibans, mais on voit qu'ils reviennent et aujourd'hui presque la moitié du pays, on néglige un peu cette donnée, mais c'est presque la moitié du pays qui est dans une situation de guerre. Et bien évidemment, ce petit écho radiophonique l'indiquait, Ben Laden est toujours introuvable. Le Mollah Omar, pour qui la récompense est du même niveau, il faut bien le rappeler, est toujours lui aussi introuvable. Et on a eu beaucoup d'espoir en Afghanistan. On a pensé vraiment que... On a fermé un peu les yeux sur ce qui se passait là-bas, sur ce qui s'était passé, parce que voilà, bon, on allait faire quelque chose, on allait construire, on allait aider vraiment ce pauvre et malheureux pays à construire son État. Il y a eu des élections qui se sont passées dans des conditions, ma foi, assez correctes, et les Afghans, très nombreux, y ont participé. Il y a eu des bavures nombreuses qui ont été plus ou moins dénoncées, ou dénoncées de façon, disons, presque routinière. Aujourd'hui, hélas, le pays s'enfonce, semble-t-il, à nouveau dans le chaos. Et on essaiera de comprendre, évidemment, pourquoi. On essaiera aussi de comprendre qui a le pouvoir en Afghanistan. Qui a le pouvoir en Afghanistan? Lorsqu'on arrive à l'aéroport de Kaboul, on découvre deux immenses portraits, l'un de Amacha Massoud, le grand Massoud. Vous vous souvenez, on s'était entiché de lui il y a 5 ans. Voilà bien une chose qui a été un peu oubliée, un peu fanée, cette image de Massoud. Et de l'autre côté de l'entrée ou de la sortie, comme vous voudrez, de l'aéroport, on voit un portrait d'Hamid Karzai, le président afghan, lui aussi, quand même, il est un symbole important, la démocratie, les élections. Mais quel est au juste le pouvoir de cet homme-là? On dit qu'il est le maire de Kaboul, pour dire qu'il n'a pas le pouvoir dans le pays. Et est-il seulement aujourd'hui le maire de Kaboul? A-t-il le pouvoir dans sa propre ville? Qui a le pouvoir dans ce pays si le gouvernement ne l'a pas? Est-ce que c'est ces forces occidentales que j'évoque? Non, disent ces forces occidentales. Les Américains rappellent pourquoi ils sont là, pour Ben Laden et pour empêcher le retour des talibans. Est-ce que ce sont les forces de l'OTAN? Non, disent les forces de l'OTAN. Nous sommes là pour accompagner la reconstruction du pays comme une force de paix, une force d'interposition, le cas échéant. Sont-ce les seigneurs de guerre qui, on avait pensé que ces personnalités tyranniques et qui ont du sang sur les mains allait se dissoudre dans la démocratie? Il suffisait de leur donner, ma foi, une place au gouvernement. On s'aperçoit qu'ils ont bel et bien ces places, mais c'est jamais qu'un supplément, qu'un complément des pouvoirs locaux, régionaux qu'ils peuvent avoir et qui s'appuient entièrement sur leur capacité à mobiliser des troupes, parfois de plusieurs milliers d'hommes, qu'ils peuvent payer d'autant plus facilement aujourd'hui que le narcotrafic fait fureur. Alors, qui a le pouvoir? Est-ce que ce sont ces nouveaux talibans qui, venus du Pakistan, des zones tribales du Pakistan, où ils ont eu tout le temps de se préparer, de s'entraîner, de trouver de nouveaux financements, et eux aussi de profiter des narcotrafics? Est-ce que c'est eux qui ont le pouvoir? Eh bien non, personne n'a le pouvoir, et tout le monde cherche à l'avoir dans ce pays dont c'est la caractéristique. C'est-à-dire que l'unité, l'intégration de l'Afghanistan est toujours un chantier en construction et en démolition permanente. Avec un œil français, c'est pas facile à comprendre, nous, qui habitons, bienheureux français, un pays dont l'intégration est évidemment accomplie. Eh bien, l'Afghanistan est dans ce temps long, très long de l'histoire, et nous assistons aujourd'hui à une péripétie supplémentaire. 5 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à ce temps long que j'évoque? C'est tout et c'est rien. Et on va essayer de voir ces 5 ans comme cet auditeur, comme Claude, qui regarde toute la vie dans le coït de deux mouches sur le bord d'un verre de vin. Nous, on va aller voir dans un salon de coiffure, chez un barbier de Golbar, comment le temps est passé. C'est jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, un retour en Afghanistan.
دنیا گذران خوش پیر شوی ای یار جوان خوشدل شوی عیار جوان من نغم سرای دلی عاشق بسرا
Barbier. Oh, c'est le barbier. Salam. 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 Ah, mais c'est un beau barbier. Hein. Vous vous appelez comment ?
Moi, Sharif.
Sharif.
Bon.
Et vous êtes le barbier de Golbar. Alors, mais vous vous coupez pas la barbe. Pour vous, personnellement, pas question.
Il dit chez moi, le café, là, la mitouasse, donc, et ça, on veut dire,
pour l'instant, c'est comme ça, le temps qu'on verra ce qui va se passer dans le monde. Hein.
Ah oui, parce que. Pourquoi on se coupe la barbe et pourquoi on la laisse pousser ici?
Voilà, parce qu'on dit que ça, calme, quand on nous, taraf et Kabul, raft, omad, nadoran. Moi, ma femme, les gars, comme on tombe, raft, omad, d'or, et avec tes deux familles, mon Kabul, avec tes deux dijas, et ne pas y chercher.
Ceux qui se rasent la barbe, ils vont jamais à Kaboul. Moi, j'ai des allées-venues à Kaboul, il faut que j'aille de temps en temps, j'ai la famille là-bas, donc il faut que je laisse pousser ma barbe.
Parce que pour aller à Kaboul, il faut de la barbe.
مگه برای کابل رفتن حتما ریش باید باشه
ریش باشه ریش که نباشه یا زندانی میشی یا لاتوکوب میشی
وی لا باربه اوبلیگاتوار سی اون ها پات بارب سو اون ای باتو سو اون ای میز ان پریزون
بون الان vous lui coupez la barbe à Kiev
toute petite boutique et déjà tous les gens de tous les gamins de la rue sont rentrés dans la boutique mais c'est toute petite boutique joliment décorée d'ailleurs alors on met la voilà alors là t'es formidable ah oui ça c'est le bruit de la pluie-tête. Là donc, tu vois plus rien maintenant. Non. Il peut faire ce qu'il veut.
Ouais.
Tu vois plus rien.
J'étais pas mal quand même avec mes deux oreilles, non?
Ouais. Bah oui, mais écoute, bon, tu mettras les cheveux plus longs.
Ouais.
Hein, tu mettras l'arrêt de côté.
Ah, voilà.
La tête en arrière. Alors, il met une lame neuve hein, pour toi.
Ah, merci.
T'as du bol, hein. Absolument neuve. Il a même jeté le papier. C'est un cutter.
Et je m'inquiète pas là. En fait.
C'est comme un cutter.
C'est normal s'il met pas de savon.
Non, ne t'inquiète pas. C'est toi qui as voulu venir là. Tu vois bien que le blaireau est desséché depuis au moins 3 ans. Il est posé sur ce petit rebord en bois.
Non, mais finalement, on pourrait peut-être faire un autre portage, non? Tu crois pas?
Non. C'est très très bien. Très très bien. Tu vas être présentable. Il
n'y
a pas de savon. Tu vois, c'est ça le...
Non, ils n'ont pas de savon.
Pas de savon, c'est trop cher le savon.
Non, c'est pas ça, c'est que c'est maintenant, les gens ils se rasent plus, donc ils n'achètent pas les produits. La mousse à raser, ils n'achètent plus. Non, on n'importe plus.
Oui.
Moi je veux bien qu'on en achète. Hein.
On fait comme ça, et ça c'est formidable. Hein. Un seul coup de rasoir. Tu veux la moustache ou pas? Tu n'as pas gardé la moustache? Il ne veut pas parler, Guy.
Non, je ne veux pas parler, là. Je veux le coucher en bas.
Ah, voilà, c'est ça les grands reporters, les vrais grands reporters baroudeurs. Donc ça, c'était, vous avez compris, en 2001. Oh, vous dites, bah, c'est quand même bien banal que cette scène. Oui, attendez, banal. Le coiffeur, monsieur Sharif, il nous dit, il a la barbe, monsieur, il dit. Alors on dit, vous avez la barbe, il dit, ah, le temps qu'on voit ce qui va se passer dans le monde. Notez bien cette petite phrase-là. Give ne choisit pas de garder la moustache. Vous allez voir le sens d'une moustache dans l'histoire de l'Afghanistan. La barbe, vous avez compris, c'était les talibans, on vient de le dire, qui astreignaient les hommes. Il n'y avait pas que les femmes qui étaient astreintes à porter la burqa, vous savez, cette espèce de grand sac bleu avec un petit grillage pour voir au travers. Non, il y a aussi les hommes qui étaient astreints à se laisser pousser la barbe. Et longue, pas une petite barbichette comme ça, longue, fournie. Voilà. Et faute de quoi, eh bien, effectivement, on pouvait être battu ou jeté en prison au temps de cette théocratie obscurantiste que fut le règne des talibans de 96 à 2000 ans, 5 ans quand même, qui régnèrent sur l'Afghanistan, sans que ça gêne beaucoup au début, jusqu'à ce qu'Oussama Ben Laden vienne s'abriter dans la région entre Kandahar et Jalalabad. mais jusque-là, ça ne gênait personne que ces talibans aient pris le pouvoir sur l'Afghanistan avec le concours, l'appui du Pakistan, et dit-on aussi, on le verra avec nos experts, avec aussi l'appui des États-Unis pour en finir avec la guerre des Moudjahidines qui avait ensanglanté, jeté le pays dans un chaos infernal pendant les 4 années précédentes. Alors voilà, on en était là à Golbar, cette ville le long de la route, comme ça, le long de la piste, disons, une ville sympa, commerçante, ouverte, une sorte de souk tout en longueur, comme ça, en haut de la plaine de Chomali, et avant d'entrer dans les dans le Panchir, dans la vallée du Panchir, dans le goulet d'entrée au Panchir. Giv Anquetil lui-même s'était fait donc raser la barbe par Monsieur Sharif, barbier à Golbar.
L'oreille.
Ferme les yeux là, je t'avoue.
Hein.
Ah, oui. Ah, un petit coup d'éponge bien dégueu après pour enlever.
Oui,
tout
ça. C'est l'éponge collective. C'est pas vraiment une éponge, c'est un petit carré de mousse.
Voilà. Heureux. Enfin, une tache à quoi alors. Merci beaucoup, monsieur. J'ai jamais été rasé aussi vite et aussi.
Ouais. Très très habile, formidable.
Ça brûle un peu.
Ouais. Mais je suis presque pas coupé, t'as vu? Il y a juste 4 ou 5 ou 6 égratignures.
Oui, mais c'est toi qui les avais avant. T'aurais pas eu ces petits boutons qui dépassaient, c'était rien.
Ouais, d'accord. Voilà. Moi, je lui demande pas d'autres colognes, je crois. C'est pas la peine.
Un guerrier qui part au combat, un Moudjahidine qui doit partir au combat, est-ce qu'il doit se préparer comme ça? Est-ce qu'il doit se raser, se parfumer avant le combat?
Oui, se lave avant de partir au combat. Au cas où il tombe dans les combats, il faut qu'il soit propre pour aller dans le royaume de Dieu.
Et il faut être rasé pour aller dans le royaume de Dieu ou on peut y aller avec la barbe?
Il faut qu'ils aient la barbe, mais il faut qu'ils soient propres.
Alors voilà un monsieur qui vient se faire raser. Alors il va se faire raser complètement ou en partie?
Non, il se coupe les cheveux.
Ah, c'est pour les cheveux là. On peigne d'abord avec un petit peu d'eau. C'est très parcimonieux. Hein. Faut pas gâcher l'eau, faut pas gâcher le rasoir. Faut surtout pas gâcher le savon. Hein. C'est le barbier sans savon.
C'est pas mal quand même le pays où on n'importe plus de mousse à raser.
Et là, on voit des photos de femmes. Là, est-ce que ce serait autorisé, ça, chez les talibans? Les images de femmes sur les emballages de shampoing, est-ce que ce serait autorisé, ça?
Si on met des photos comme ça chez les talibans sur les murs, alors là, c'est un crime.
Alors, c'est un crime. Alors, là, on est dans le crime. Il y a des portraits de femmes sur des emballages de shampoing, il y a de la radio avec de la musique, et il y a des gens sans barbe.
Il y a des gens sans barbe.
Là, c'est des crimes anti-talibans.
C'est vraiment le comble de... chez les talibans, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit chez les talibans.
Allez, on va payer.
T'as vu, c'est vitesse grand V.
Combien ça paye? Combien ça coûte? Combien on paye?
Moi, je suis mal minimum, quand il me tient chaud. Donne ce que tu veux, si tu donnes rien, tant pis, c'est pas grave, tu es notre invité.
Oh non.
20 000.
Deux francs. Je rajouter un ou deux, quoi.
Oui.
Bon, allez, donne 4 francs. Montrons-nous généreux, moins de 4 francs.
Ah ouais, nous dans la fesse.
Écoutez ça évidemment d'une oreille distraite, oui c'est joli, bah, c'est normal, c'est une émission sur l'Afghanistan, on entend une chanteuse afghane, voilà, et puis, et ben non, mais c'est la subversion la plus totale ce que vous entendez là, c'est absolument torride, une femme qui chante, et comme ça, publiquement, au temps des talibans. C'était, ça coûtait très très cher. D'abord, c'était absolument interdit, comme beaucoup de choses étaient interdites. Vous vous souvenez, les talibans, c'est vraiment, ils ont atteint un sommet de la férocité, la méchanceté, enfin tout ce que nous a surpris évidemment quand on a découvert ça. On a découvert ça encore une fois, je le répète, assez tardivement. Les cerfs-volants, la musique. Il y a eu un moment où porter des chaussettes blanches en Afghanistan était passible de graves punitions. Pourquoi ? Parce que c'était la même couleur que le drapeau blanc des talibans, et donc c'était une insulte à ce drapeau que de porter des chaussettes de la même couleur. C'est une des choses. Alors on a rencontré, on verra dans la suite de ce carnet de route, des talibans de l'époque qui nous ont dit oui, c'était peut-être un petit peu excessif, mais maintenant on va faire autrement. Et je crois qu'il faudrait vraiment prendre ça très très au sérieux, ce autrement de ces gens-là. Donc là, il faut bien dire qu'on est dans la partie où Tadjik, c'est-à-dire au nord de Kaboul, on parle d'Ari, c'est-à-dire le persan, comme Essan, notre ami, le parle. Et Guiv aussi, vous savez, Guiv est d'origine à moitié iranienne, donc il parle le Dari. Ça, c'est autre chose, c'est une autre culture que celle des talibans. Je rappelle que l'Afghanistan, c'est on parle Dari sur une partie du pays, la partie plutôt nord du pays, et dans le sud, c'est plutôt le Pashtun qui est parlé, et ces deux cultures tout de même différentes et assez souvent antagonistes dans l'histoire de ce pays, et dans cette lutte que se sont livrés, que se livrèrent encore à l'époque les talibans, donc Pashtun, et le Nord, Tadjik, l'Alliance du Nord. D'où ce barbier qui, à travers tous ces petits symboles de rien du tout, la figure d'une femme sur un paquet de shampoing, certaines images, certaines... Et la barbe, eh bien, faisait de la résistance à sa façon. Qui eût cru qu'en entrant dans un salon de coiffure, on allait rencontrer des résistants. 5 ans après, il y a quelques semaines, nous revoilà à Golbar, fleur de printemps, dans cette ville le long de la route, et à la recherche du salon de coiffure de l'époque, chez le barbier de Golbar. Qu'est-il devenu ? Que sont-ils devenus ?
Là, on se pose une question. On est venu là il y a 5 ans.
Oh, regarde les chevaux.
Oh, chien, madame, là.
On est venu là il y a exactement 5 ans. Il y a exactement 5 ans, tu t'es fait raser ici, dans cette petite échoppe. Attention à la circulation.
Ah ben voilà. Ça n'a rien à voir.
Alors, est-ce que c'était le même barbier qu'il y a 5 ans ?
C'est pas le même gars. Ah oui, c'était son père qui était là-bas.
Ah bah, il faut qu'on trouve le père.
Oui, il va appeler son père là.
Ah génial, c'est très gentil. Alors voilà la grande nouvelle, vous ne saviez pas ça, hein ? Ah oui, c'est le fils du barbier de Golbar qui a repris la boutique de son père. C'est quand même pas rien. Voilà, ça c'est un scoop quand même. Et puis, il faut que vous sachiez une deuxième chose, c'est que c'est plus le même salon.
C'est-à-dire que le fiston, il a repris, mais c'est un salon nettement plus vaste. Il doit y avoir 3 mètres carrés de plus. Enfin, c'est pas tout à fait au même endroit. Voilà. Et alors, le papa, ben, il est ailleurs. Le papa, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a ouvert un salon à quelques kilomètres de là. Alors, comme les étrangers demandent à le rencontrer et qu'on a le sens de l'hospitalité, un sens aigu de l'hospitalité, eh bien, on l'envoie chercher. Et quelques instants plus tard, le papa arrive et sur sa moto, superbe, avec des moustaches. N'oubliez pas que maintenant, désormais, il a des moustaches. Alors que, vous vous souvenez, il y a 5 ans, il avait la barbe. 5 ans après, on va retrouver le barbier de Guive, en principe. En principe. Alors, est-ce qu'il s'en souvient? Allô? Ah oui, c'était lui. C'était lui. Sauf que c'est pas le même salon de coiffure.
C'est à peu près la même déco.
Ah oui, c'est la même déco. Mais c'est pas le même salon de coiffure. Est-ce que vous vous souvenez qu'on était venu?
Ah, il a dit danger.
Oui, lui, il se souvient.
Toi, tu t'en souviens?
Il t'a rasé la barbe.
Il se souvient pas de toi, mais il se souvient qu'il m'a rasé la barbe à moi.
Oui, ben non, mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai... Bon, ben, on recommence, là. Allez, on remet ça. Allez, hop. C'est possible?
Je m'installe dans le fauteuil.
Toc, toc.
Moi, je m'en suis sorti la dernière fois, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois-ci, non?
Un petit coup de chiffon pour enlever les petits poils du précédent. Devant toi, une tondeuse, exactement la même tondeuse que quand j'étais gamin. Le rasoir, le ciseau et le peigne. Et une brosse sans manche.
Allez, puis il serre sport le tissu.
Mais c'est pour pas que ça te pique après.
Et heureusement, j'ai la caba de la mec qui veille sur moi, ainsi que la photo d'Ahmad Chamassoud et une représentation de Mahomet.
Eh, hey, il y a de l'eau chaude.
Ouais, ça, c'est un progrès, parce que la dernière fois, c'était à l'eau froide, le rasage.
Il y a de l'eau chaude maintenant, hein?
Ah, oh, carrément ça. Oh.
Hop.
Je me fais humidifier la moustache par un petit pincement de doigt. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus se faire couper la barbe après la chute des talibans?
Oh, déjà, quelqu'un m'a donné.
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus se couper la barbe.
Donc ça a été... Ah, on te met de la crème cette fois-ci, tu vois, c'est ça qui a changé.
C'est pas du dentifrice plutôt, là?
Non, on te met de la crème. Alors ça a changé, hein.
Ouais, putain, il n'y en a pas beaucoup, hein.
Pas beaucoup, mais c'est quand même... Attends. Non, mais là, il a un vrai... Il a un bureau.
Parce que la dernière fois, c'était pas comme ça, la dernière fois?
Oui, il n'y avait pas de savon. C'était la guerre, il n'y avait pas de savon.
Ah oui.
Et donc, c'était accru, quoi. C'était juste un coup de rasoir, là, mon vieux. Mais ça avait été très bien. Ah, attention les dents. Voilà. Alors, quelle est la tendance maintenant? C'est barbe ou pas barbe?
C'est là, c'est riche, mais mon ami, ça a l'air riche, là.
Oui, beaucoup de gens, ils laissent la barbe. Ils laissent quand même leur barbe.
Oh, le masala, j'ai appris une échec, quoi, dans le masala.
Maintenant, la différence, c'est que maintenant, c'est pas une obligation.
Voilà, c'est ça qui a changé quand même. À l'époque, c'était obligatoire. D'après lui, après la chute des talibans, est-ce qu'il a une idée du nombre d'hommes qui sont venus se faire couper la barbe? Des centaines, des milliers?
Plus que des milliers. Des centaines de milliers, je peux dire.
Des centaines de milliers.
Ah oui, ils ont coupé leur barbe parce qu'ils ont dit que ça, c'est la barbe imposée par les talibans. Donc on le laissera repousser une autre fois. Mais ils n'ont plus...
Ils ne voulaient plus. Donc ça, c'était bon pour les affaires, ça?
Bah oui, bien sûr, parce que quand on coupe la barbe, on coupe tout le temps. On a toujours du travail.
Oui. Alors, c'est ça qui vous a permis de vous agrandir et de faire hammam dans le fond du salon? C'est ça?
Oui, bien sûr.
On avait vu juste, c'est pour ça qu'il a un costard.
Ah, il est en train de te mettre une arme.
Les auditeurs sont témoins, quand je prends des risques quand même pour l'audience de France Inter.
Alors attention.
Ça file tout seul.
C'est beaucoup plus luxueux, hein. La catastrophe pour lui, c'est que si les talibans reviennent.
Je vais demander. Oui.
Sans vouloir faire de la politique, bien sûr.
Et c'était quoi la mode de tout le temps des communistes alors? La mode pileuse.
À l'époque, c'était plutôt la moustache. Et les barbus étaient des bandits. Des bandits anti-révolutionnaires.
Les révolutionnaires avaient la moustache et les barbus étaient des anti-révolutionnaires.
Voilà.
Ouh, mais l'Afghanistan, c'est le langage du poil.
C'est ça, il y a une histoire politique de l'Afghanistan à faire par le poil sur la face des hommes.
T'en rigoles pas trop, toi.
Voilà.
On
remet notre lame.
T'as le droit à deux lames.
C'est grand luxe, là.
Deux fois.
On appelle ça chapataroche. De revers.
Et vous croyez que la présence de la force internationale, c'est bon pour le pays ?
Pour l'instant, c'est bien, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Si c'est calme comme ça, comme ici, ça va. Mais s'ils ont d'autres buts, ce ne sera pas pareil. Les Américains sont des occupants. Nous, on les considère comme des agresseurs.
C'est le grand-père qui dit ça, là.
Ouais.
Comme les Russes.
Ils sont pires même que les Russes.
Ah bon ?
Oui, ça se voit que c'est un anti-américain et anti-Karzai et anti-gouvernement.
Aujourd'hui, dans la terre, sur le sol afghan, il n'y a pas un seul bâtiment, il n'y a pas une seule usine, il n'y a pas de travail pour les gens.
Ils n'ont pas créé 10 emplois en Afghanistan. Tous nos artères économiques sont détruites. Nous sommes tous dépendants et nous avons les yeux rivés sur les Américains pour qu'ils nous donnent des salaires.
Il faut dire que c'est quand même une conversation un peu particulière parce qu'il peut arriver que Essa, notre traducteur, mette un certain temps et hésite avant de traduire parce qu'il est en train de se faire raser avec un sabre. Hein, faut pas trop rigoler, faut pas trop rigoler.
Faut pas me faire rire. Hein.
کی بولاش ستا ابری کماش ستا خالک سوماش ستا دخترک کای دار میرن ادکی بولاش ستا ابری کماش ستا خالک سوماش ستا دخترک کای دار میرن کای دریرا
Afghanistan, 5 ans après que les forces occidentales aient bombardé ce pays pour le libérer, selon une mise en scène déjà éprouvée. on bombarde un pays et puis on pense que ben, ça va apporter la démocratie. On s'est bercé effectivement à la fois de cet espoir et de cette illusion, sauf que 5 ans après, ben, c'est une illusion perdue et sans doute une occasion manquée. On avait fait l'impasse, on a dit bon, ben voilà, oui d'accord, alors, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs, il y a des bavures, mais ce pays est dans un tel état après plus de 20 années de guerre continue, de guérilla, d'épuisement, de harassement sur 178 pays classés dans le développement, dans l'ordre du développement par le programme national des, par le programme des Nations Unies pour le développement. Sur 178, l'Afghanistan est 173e. C'est avant d'être le havre des terroristes, c'est avant tout le pays, l'un des pays les plus pauvres du monde. Le 6,5 millions d'Afghans souffrent d'insécurité alimentaire chronique et le programme alimentaire mondial soutient 3 millions d'habitants qui ont des problèmes de nourriture, de faim, pour être clair, dont 1,5 million d'enfants qui souffrent de sous-nutrition. 6% seulement des Afghans disposent de l'électricité, seulement 40% des enfants sont vaccinés. Une femme meurt toutes les demi-heures de complications liées à l'accouchement, etc., etc. Alors qu'on n'est pas capable de dire depuis 5 ans quel est le montant précis de l'aide versée, apportée à ce pays par la communauté internationale. Ça oscille entre 6 milliards et 15 milliards. On ne sait pas exactement. On sait que c'est la Banque mondiale qui orchestre cette aide et cette reconstruction de l'État, mais avec une politique, et on peut dire une philosophie, et on peut dire une idéologie qui va contre l'État, qui est celle, qui est une politique néolibérale qui favorise le privé, qui favorise la privatisation. Alors, c'est quand même pas la meilleure façon de construire et de permettre à un État d'exister si on le prive de tout. Alors, ces budgets vont par le truchement des agences des Nations Unies vers des ONG, 2300 ONG en Afghanistan, la plupart des ONG afghanes, et on peut dire que l'aide est un chaos total. On le verra dans les émissions à venir. Là, pour ceux qui seraient restés sur leur faim après les précisions données par le client du coiffeur du barbier du Golba, on va retrouver un expert français qui s'appelle Olivier Roy, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un fin analyste de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, pour lui demander comment aujourd'hui il voit ces 5 années passées.
Je dirais que c'est la période de la désillusion et aussi des occasions manquées. La désillusion, en un sens, elle est normale, parce que les Afghans, en général, s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire. Ils s'attendaient en particulier à une aide massive qui transformerait le pays de fond en comble. Dans tout le pays, on avait entendu, par les radios, dire que des milliards de dollars allaient s'abattre sur le pays et permettre un développement considérable. Et puis, dans beaucoup d'endroits, il s'est tout simplement rien passé. Cette aide se fait aujourd'hui largement à travers un système d'ONG, d'agences de l'ONU qui fonctionne de manière, je dirais, plutôt chaotique et désordonnée, avec des effets pervers parfois plus importants que l'aide réellement apportée. La deuxième désillusion, c'est sur le plan politique. Bon, les Afghans ont voté pour le président Karzai, ils ont voté pour les élections législatives, ils ont voté en masse, donc il y avait une attente de voir se mettre en place un État relativement démocratique, relativement efficace. Personne ne faisait trop d'illusions. Mais on constate que ce gouvernement a eu beaucoup de mal à mettre en place une administration un tant soit peu efficace. Alors il y a beaucoup de raisons. Un, c'est la corruption. La première raison, à mon avis, c'est la corruption généralisée, qui est évidemment pas créée, mais enfin multipliée par la drogue, par le fait que la quantité d'argent que rapporte la drogue en Afghanistan est supérieure à celle du budget de l'État. Donc on voit tout de suite ce que ça veut dire pour le rapport entre salaire d'un fonctionnaire et revenu qu'un fonctionnaire peut espérer en touchant les bénéfices de la corruption. Et puis maintenant, le dernier point, qui est quand même très grave, c'est l'offensive des talibans. L'offensive des talibans, qui touche essentiellement le sud pachtoun de l'Afghanistan. Mais alors que les talibans, jusqu'à récemment, s'attaquaient essentiellement aux troupes étrangères, depuis un an, je dirais, ils s'attaquent systématiquement à tout ce qui représente l'État. Et en particulier, évidemment, les écoles, et en particulier encore les écoles de filles, bien entendu. Donc là, il y a une volonté des talibans de faire le vide, de faire le désert, et de faire en sorte que la population afghane dans le sud ne voit rien d'afghan du côté gouvernemental, mais voit uniquement les troupes occidentales. Et donc les talibans surfent sur le nationalisme afghan, qui est très très fort. Donc ils combinent leur fondamentalisme islamique traditionnel, évidemment, qu'on voit par exemple dans la critique, le refus des écoles de filles, mais aussi ils surfent sur le nationalisme, et ils essaient de combiner islamisme et nationalisme. Pour entraîner derrière eux, en tout cas les gens du Sud, sinon la totalité du pays.
Ils ont des chances de le faire ?
Ils ont des chances de le faire. Et puis surtout, il y a un autre problème, c'est qu'à partir du moment où les troupes occidentales sont en première ligne, combattent, on se retrouve dans une situation de guerre, sinon d'occupation, mais disons de guerre de contre-guérilla, avec tous les effets dangereux de la guerre de contre-guérilla. Par exemple, les bavures contre les civils. D'autre part, ces troupes occidentales, elles sont composées de deux éléments. L'armée américaine, qui est centralisée, aguerrie, mais qui ne sait pas du tout faire la politique au bon sens du terme, qui ne sait pas du tout parler aux gens, combattre légèrement, qui ne compte que sur la puissance de feu, donc ce qui entraîne un rejet très rapide de la population civile. Et l'autre élément, c'est les troupes de l'OTAN, qui ont une tradition, j'allais dire, plus souple dans le combat. On envoie des patrouilles, on va à pied, on parle avec les gens, etc. Mais qui compte une douzaine de nationalités, avec des gros problèmes, tout simplement, d'harmoniser en termes de langue les différentes unités qui combattent et la quasi-impossibilité d'avoir, par exemple, un véritable système commun de renseignement. Donc, ces troupes occidentales ne sont pas faites, c'est pas leur but non plus, pour faire une guerre de contre-guérilla. Elles sont faites pour soutenir l'armée afghane contre les talibans. Et s'il n'y a pas d'armée afghane, s'il n'y a pas de relais afghan, eh bien ces troupes occidentales se voient rejetées.
Et en effet, le climat est lourd quand on arrive à Kaboul, à travers la poussière. C'est une ville très 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 poussiéreuse, surtout en cette fin d'automne, et avec les sécheresses qui se sont succédées ces années dernières à travers l'Afghanistan. Une ville poussiéreuse, une ville très pollué, où on sent un climat de peur et de défiance tout simplement en arrivant dans cette ville. On sait qu'il y a eu de l'espoir, on sait qu'on y a cru, on sait qu'on a pensé que voilà, on allait vers un équilibre, vers la fameuse démocratie. Mais la démocratie, c'est pas toujours facile de convertir ces barbus barbares à la démocratie quand la démocratie ressemble à Abu Ghraib ou à Guantanamo, où on l'a vu avec ces images dernièrement publiées de soldats allemands exhibant des crânes sur des charniers en Afghanistan. C'est très très difficile de convaincre que c'est la solution. Et lorsque l'aviation américaine, aussi bien les AWACS, les B-52, les F-18 et les hélicoptères Apache bombardaient ce pays, le plus pauvre du monde, dévasté, ravagé et en proie à la famine, personne ne se demandait où allaient exactement ces bombes, si elles étaient capables, si elles avaient toute l'intelligence suffisante pour ne taper que sur les méchants et mettre de côté les bons, les femmes, les enfants. Et ça, évidemment, les Afghans s'en souviennent. La lutte à mener, évidemment, en Afghanistan, c'était pas contre le terrorisme, c'était contre la misère, contre la pauvreté. Et il semble bien que pour l'instant, effectivement, pour être prudent et pour ne pas insulter l'avenir, on dira que c'est une occasion perdue. On en parlera à nouveau demain. C'était un reportage avec Guy Vanctil. Merci à Sharif Le Barbier, à Olivier Roy. Merci à notre cher traducteur Essan Meranguet. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à .com, à la rubrique émission La Basse. J'y suis. À la technique aujourd'hui, Pierre Monsigny et Rémi Quincès. Yann Choukaïkoï et Nguyen qui ont réalisé cette émission montée par Raphaël Moutarde. C'est Christophe Imbert aussi qui vous attend, qui attend vos messages sur le répondeur de la Basse UJC au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la Basse UJC. Un retour en Afghanistan. Je vous laisse pour les infos avec Thierry Stenner. Salut.